Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Il y a plus de 60 ans, dans une petite ville de Californie, Sholheim, mourait dans un accident de voiture un jeune comédien américain de 24 ans qui n'avait tourné que 3 films. James Dean. Comment se fait-il que 60 ans plus tard, son visage nous hante toujours? Comment se fait-il que son nom soit si souvent invoqué encore de nos jours? Toutes ces questions m'ont donné envie de vous raconter aujourd'hui l'histoire de James Dean, de ses 5 ans jusqu'à sa mort. Et pour écrire son histoire, j'ai eu à choisir entre des dizaines, peut-être même des centaines de biographies qui ont été écrites sur sa courte vie. J'ai choisi celle d'un journaliste français qui est là avec moi et qui s'appelle Jean-Philippe Guérand. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous avez publié en 2005 une biographie de James Dean chez Gallimard, qui est désormais disponible dans la collection poche Folio. C'est à partir de votre livre que j'ai écrit mon histoire, avec l'aide de Claude Mandibille, sur une réalisation de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Vous connaissez Santa Monica, en Californie. C'est une très jolie station balnéaire près de Los Angeles. Eh bien, en 1936, c'est là qu'habitent les Dean. Mais attention, hein, pas dans une villa avec piscine, dans un modeste bungalow. Le père de James est prothésiste dentaire et sa mère est femme de ménage, à mi-temps. L'autre mi-temps, elle le consacre entièrement à son fils James. C'est elle qui lui apprend à lire, c'est elle qui lui apprend à écrire. Mais pas que, elle s'est mise en tête d'en faire un artiste. Et donc à 5 ans, James apprend le violon. C'est bien mon chéri, ça va venir, ne te décourage pas. Si la maman de James veut en faire un artiste, c'est par transfert. Elle-même, elle aurait tellement voulu être chanteuse ou actrice. Mais la crise de 29 a ruiné son rêve, elle a dû arrêter ses études et se mettre à travailler. Alors du coup, elle a tout reporté sur James. Et puis un jour de 1936, ils sont en train de faire de la lecture tous les deux. Sa mère, qui est très fatiguée en ce moment, s'endort. Maman ! Maman, réveille-toi ! Enfin, ça fait 3 fois que tu t'endors pendant que je te fais la lecture. Ne t'inquiète pas, mon Jimmy. Continue à lire. Je t'écoute. Mais dans les mois qui suivent, ça s'aggrave. Sa mère dépérit à vue d'œil. Et le verdict du médecin tombe. Cancer de l'utérus. Son mari, Winton, fait tout ce qu'il peut pour lui payer un traitement au radium. C'est hors de prix. Il vend sa voiture, il vend ses meubles, il emprunte de tous les côtés. Et le petit James passe des heures à lui caresser la main et à lui jouer du violon. Et à lui lire le journal à voix haute. Son père essaye de le préparer à ce qui arrive. « Tu sais, Jimmy, maman va faire un grand voyage. Elle ne reviendra pas. » Quand sa mère meurt, le 14 juillet 1940, à l'âge de 29 ans, James est sonné. « Quand ma mère est morte, j'ai eu l'impression d'avoir été poussé du sommet d'une falaise. Je me suis retrouvé tout seul, dans un espace vide, sans tomber, juste suspendu en l'air. » La maman de James est enterrée à Fairmount, dans l'Indiana, à 2000 kilomètres de Santa Monica. Le père ne peut même pas se rendre à ses obsèques, il n'a plus un sou. Il a tout dépensé dans le traitement contre le cancer. Mais James, lui, y va, avec sa grand-mère. Son père vient l'accompagner sur le quai de la gare de Los Angeles.
Au revoir, papa. On se voit bientôt, d'accord ?
Oui, Jimmy. Oui, je viendrai te chercher, je te promets.
La grand-mère assiste à la scène. Au lieu de s'étreindre, ils se sont contentés de se serrer la main, comme deux boxeurs avant un combat. Le cercueil est hissé dans le train, qui part pour Fairmount, dans l'Indiana. Le voyage dure 5 jours, et à chaque arrêt, vous entendez à chaque arrêt, James va voir dans la soute à bagages si personne n'a volé sa maman. Vous l'avez compris, n'est-ce pas? Son père n'a pas vraiment l'intention de le récupérer. Il ira le voir une ou deux fois par an. Mais à partir de maintenant, le jeune James Dean va vivre avec son oncle et sa tante à Fairmount, Marcus et Hortense Winslow. Là-bas, dans l'Indiana, ils ont une grande ferme et ils sont très religieux, ils sont Quakers. James va devenir un petit paysan. Et ça aurait pu mal se passer. Ça se passe très bien, au contraire. Ces gens l'aiment. Et puis, il se sent bien à la campagne. Il pêche, il chasse, il s'occupe des vaches, il conduit le tracteur. Un vrai petit paysan. Qui, bien sûr, de temps en temps, a des coups de blues quand il pense à sa maman. Il culpabilise, en vérité. J'ai dû me comporter mal avec elle pour qu'elle m'abandonne. Mais son oncle et sa tante lui offrent un bel équilibre affectif. Menacé un temps par l'arrivée d'un bébé, dont il est un peu jaloux, mais ça va. Et d'ailleurs, il finit par s'attacher à ce petit Marcus comme à un frère. Il va au lycée maintenant, à Fairmount. Et il y a un truc dans lequel il est super bon, c'est le sport. Le baseball, l'équitation, le hockey, ça canalise son énergie. Et puis, il aime se lancer des défis. Un jour, pour impressionner une fille, il se suspend à un trapèze et il veut se lancer dans une cascade.
Hé, regarde-moi ! Regarde un peu ce que je sais faire !
Et là, il saute et il percute un morceau de bois. Et bim ! Il se casse les deux incisives. Ça lui donnera l'occasion de voir son père, qui est prothésiste dentaire, je vous le rappelle, et qui va lui fabriquer un bridge qu'il va porter toute sa vie. Et au passage, ça va expliquer ses problèmes de diction, sa difficulté à articuler que lui reprocheront ses futurs metteurs en scène. Et d'ailleurs, au passage, une mise au point. Adolescent dans l'Indiana, le jeune James Dean n'a rien, rien d'un sex symbole. Il est petit, il est myope, il porte des lunettes et une prothèse dentaire. Pardon d'écorner le mythe. Cela dit, il a du charme, un visage d'ange, un air à la fois farouche et tendre, un truc quoi. Un truc qui n'a pas échappé au révérend James de Verne. C'est le pasteur de l'église baptiste de Fairmount. Il a 30 ans et il exerce une grande influence sur les adolescents de la paroisse. Vous voyez vers où on va. Il les emmène à la piscine, il les emmène parfois chez lui. Et à peu près quand James a 17 ans, il devient son mentor, son père de substitution, et puis assez vite, son amant. Cela dit, c'est lui, le pasteur, qui lui fait découvrir l'art, la musique, la philosophie et aussi la corrida. Et c'est aussi lui qui lui file le virus de la bagnole. Le pasteur de Verde a une Mercury décapotable. Il la lui fait conduire. Et un jour, il l'emmène aux 500 miles d'Indianapolis, une course automobile. Il adore. La vitesse, il adore. Et malheureusement, ça lui coûtera la vie, mais n'allons pas trop vite. Le pasteur lui file aussi le virus du théâtre. Et du coup, de temps en temps, il va au milieu d'un champ, comme ça, avec une toge, et il déclame du Shakespeare.
Il aimait la mort et ses sombres promesses. À venir incertain d'un garçon en détresse, il voulait mourir, laisser partir sa peine, oublier tous ses jours à la même rengaine.
Et assez vite, on repère son talent de comédien. À 18 ans, il fait la une du quotidien local, le Fairmount News. Il vient de remporter la première place du concours de déclamation dramatique. Mais s'il veut devenir comédien, et ça le chatouille, il faut qu'il parte de l'Indiana. Son père habite en Californie, bah, il décide de le rejoindre. 9 ans après la mort de sa mère, il s'inscrit à l'université de Los Angeles, dans la section d'art dramatique. Et donc il lui faut quitter le révérend de Verde. Au moment de partir, le pasteur lui glisse un petit mot dans la main. Il l'ouvre, il le lit. « Mieux vaut perdre à sa manière que gagner à la façon des autres. » Et il décide d'en faire la maxime de toute sa vie. Et le voilà donc à l'université de Los Angeles, où il annonce d'entrer à ses nouveaux copains.
Moi, les gars, je vous préviens. Hein. Mon objectif pour le premier trimestre, c'est de perdre ma virginité.
Objectif rapidement atteint. Une fois, deux fois, trois fois, 100 fois. Ses copains disent de lui.
Jimmy, il est timide, il est gauche, mais il est sûr de lui. Il apprend très vite quelques ficelles qu'il faut actionner pour obtenir ce qu'il veut.
En attendant, ses débuts au théâtre sont catastrophiques. À 19 ans, il joue dans un Macbeth avec les autres du département de théâtre de l'université. Il en prend plein la figure.
Oh, ce James Dean, avec sa diction incompréhensible, là, et son accent nasillard de l'Indiana, et ses mouvements hésitants, il est très mauvais. Oh, il est très mauvais.
Et c'est vrai, ses déplacements sont hésitants, mais c'est parce qu'il joue sans lunettes, alors il voit flou autour de lui. Et donc il se rabat sur une pub pour Pepsi Cola. Sauf que le matin du tournage, il faut aller le sortir du plumard.
Hey Jim, lève-toi. Laissez-moi dormir. Enfin, le tournage commence dans 20 minutes, debout.
Il a fait la fête toute la nuit. Ah, il en prend du bon temps, James Dean, à 19 ans. Il picole, il fume des pétards, il couche avec des filles et avec des garçons. En 1950. En vérité, c'est le copain qu'il ne faut pas avoir. Il pique sans vergogne la fiancée de son colocataire. Il emprunte de l'argent qu'il ne rend pas. Et il trompe tous ceux qui veulent l'aider. Un super bon copain. Un homosexuel raffiné de 30 ans son aîné, Rogers Brackett, qui est directeur financier d'une agence de publicité. Et riche, hein. James le rencontre dans les locaux de la chaîne CBS. Et il devient son amant. Mais discrètement, hein. Il ne s'affiche pas. Il a compris qu'il faisait rêver les filles. Elles n'ont pas besoin de savoir. C'est un vampire, en vérité, qui suce le sang de ceux qu'il aime. Et donc, Brackett lui dégote quelques rôles à la télévision. Mais ça ne lui suffit pas. Il veut faire du cinéma, comme ses deux héros, Marlon Brando et Montgomery Clift. Il a trouvé leur numéro de téléphone, figurez-vous. Alors il les harcèle, le jour et la nuit.
Allô ? Je m'appelle James Dean. Je suis comédien. Je vous admire beaucoup, vous savez. Vous pourriez m'aider ?
À un moment, en mai 1952, il a 21 ans et il décide de partir pour New York. Et il entre à l'Actor Studio. C'était son rêve. C'est difficile, hein. Il est plus que jamais rebelle, il accepte mal les critiques, mais il applique à la lettre les techniques qu'on lui apprend, notamment pour entrer dans un personnage. Un jour, par exemple, il doit jouer un personnage reclus. Eh bien, il s'enferme toute une nuit dans un placard. À l'Actor Studio, l'un de ses professeurs s'appelle Elia Kazan, un metteur en scène qui vient de sortir le film « Un tramway nommé Désir ». Un jour, il l'appelle et il le fait venir à la Warner. Il voudrait le faire jouer dans son prochain film, À l'Est d'Éden. Il pense à lui pour le rôle de Cal, un jeune homme perdu, violent, désespéré. Mais pour l'instant, il hésite encore entre lui et Paul Newman. Mais après le rendez-vous, il n'hésite plus. Il écrit au sujet de sa rencontre avec James Dean. Imaginez-vous que vous devez faire une pièce avec un loup et qu'il n'y ait pas de loup à New York. Et puis un jour, vous entrez dans un bureau de la Warner et il est là. Le loup est assis sur la banquette. Et le loup, c'est James Dean. Cal, ce sera lui. Le tournage d'À l'Est d'Éden débute en mai 1954 dans la vallée de Salinas, en Californie. Et comme toujours, James est odieux. Il ne parle à personne, il prend la mouche, il improvise sans se soucier de ses partenaires, et en 2 jours, il se met tout le monde à dos, tout le monde, sauf Elia Kazan.
Il le déteste tous, mais c'est exactement le personnage.
Et en plus, il crève l'écran.
I know where she is, I know what she is, and I know why she left you. You couldn't stand it. You didn't really love her any more than you do me.
La seule partenaire à apprécier James Dean est la comédienne Julie Harris. Le dernier jour du tournage, elle va le voir dans sa caravane. Et elle entend qu'il pleure derrière la porte.
Jimmy, Ça va, Jimmy ?
Non, ça va pas. Le film est terminé. Vous allez tous partir. Et moi, je vais encore me retrouver seul comme un chien.
Pour se consoler, il va s'acheter un nouveau jouet, une Alfa Romeo. À l'Est d'Éden est le plus gros succès de l'année et ça rend Marlon Brando fou de jalousie.
Il arbore ma garde-robe et il utilise mon talent de l'année dernière.
À part ça, il y a des rumeurs qui courent sur lui à Los Angeles. On dit que James fréquente un club sadomaso d'East Hollywood. Il paraît qu'il aime qu'on le ligote et il se fait écraser des mégots sur le corps. On le surnomme le cendrier humain. Incroyable, non ? Et puis un jour, James rencontre une ravissante actrice, brune, avec des yeux verts, Anna Maria Pierangeli, 22 ans. C'est le coup de foudre. La mère de la demoiselle est une sarde bigote, elle n'est pas vraiment d'accord.
Il ne veut pas que tu sortes avec ces garçons. Mais t'as vu comment il s'habille? Avec son vieux blue jean là, ses bottes et sa clope au bec. De quoi il a l'air?
Et pourtant, il est question qu'il se marie. Mais 6 mois plus tard, en octobre 54, Anna Maria Pierangeli annonce ses fiançailles avec un chanteur de charme italien, Vic Damone. Et 2 mois plus tard, il se marie. James est furieux. Le jour du mariage, il va à la sortie de l'église en moto et quand les mariés apparaissent, il fait vrombir sa moto et il s'en va dans un nuage de fumée. Il ne s'en remettra jamais. Et jusqu'à la fin de sa courte vie, il va garder sur lui la médaille de Saint-Christophe que Pierre lui a offerte. Pour se consoler, il s'achète encore une voiture. Une Porsche 356 Super Speedster. Un bijou à 4 000 $, parce que maintenant il a les moyens. Et au volant de ce bolide, en mars 55, il participe à sa première course automobile à Palm Springs. Et dès le début, il prend la tête et il gagne. 2 jours plus tard, James rejoint le tournage de son prochain film. La fureur de vivre, réalisé par Nicolas Ray. C'est une des premières fois que le cinéma américain s'intéresse vraiment aux problèmes de la jeunesse. James Dean, avec sa belle gueule et son côté écorché vif, plaît aux adolescents américains. Et aux côtés de Natalie Wood, qui n'a que 16 ans, il ne triche pas.
May I have some dirt, please?
One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock. Around 10 o'clock tonight.
Son troisième film s'appelle Géant. James ne s'entend pas du tout avec le metteur en scène George Stevens. Mais il applique à la lettre les conseils de son coach.
Si tu veux être texan, sois-le toute la journée, pas que devant la caméra. Tu te lèves le matin, tu enfiles tes bottes, tu mets ton chapeau et tu manges comme un texan.
James n'a que le troisième rôle. On ne le voit que 20 minutes à l'écran, mais il vole la vedette à Rock Hudson et à Elizabeth Taylor. Mais son contrat lui interdit de piloter une voiture de sport pendant tout le tournage, alors il a hâte d'en finir. Parce qu'il vient de s'acheter une Porsche 550 Spider, qu'il a baptisée Little Bastard, petit salaud. Il s'est inscrit à une course automobile qui doit se dérouler le 1er octobre 1955 sur les pistes d'atterrissage désaffectées de l'aéroport de Salinas, en Californie. La veille, il va rôder sa voiture dans les rues de Los Angeles avec sa petite amie du moment, Ursula Andress. Et près du studio de la Warner, il croise Alec Guinness, un comédien anglais.
Hé hey Alec! Ça te dit de l'essayer? Tu veux faire un tour? Ah non, non, non. Celui qui monte dans cette voiture, on le retrouvera mort la semaine prochaine, à la même heure.
James hausse les épaules et éclate de rire. Avant de prendre la route de Salinas, il va déjeuner avec son père et son oncle dans une pizzeria d'Hollywood.
Papa, il faut que tu viennes voir la cour. Tu vas entendre ce que ma Porsche a dans le ventre. Elle monte jusqu'à 240 km/h, dingue.
Mais son père a d'autres engagements. Il ne viendra pas. À 13h30, James prend la route de Salinas avec à ses côtés un jeune mécanicien, Rolf. Ils ont 500 km à faire. Sur l'autoroute, James se fait verbaliser.
La zone est limitée à 90, jeune homme. Vous rouliez à 105. 90 km/h ? Mais c'est une Porsche, monsieur. Elle n'est pas faite pour rouler si lentement, voyons.
En fin d'après-midi, ils arrivent à Scholheim. Et là, à un carrefour, une Ford Tudor qui roule en sens inverse. Lui coupe la route pour tourner à gauche. Il l'a vu, mais il est prioritaire, donc il ne freine pas. La Porsche s'envole. Elle fait plusieurs tonneaux et elle retombe. Il est 17h58 et James Dean est mort. Le coup du lapin. Le mécano à sa droite n'avait pas de ceinture. Il est projeté hors de la voiture. Il s'en sort avec quelques fractures. Et le conducteur de la Ford est indemne. Dans la carcasse de la Porsche, sur les sièges de cuir rouge, on retrouve la médaille de Saint-Christophe que lui avait offerte Pierangeli. Son unique grand amour. Il disait
« Tant que je posséderai ce talisman, il m'arrivera rien. »
Le compteur de la Porsche est brisé. Il indique 170 km/h. Ça paraît dingue, mais c'est faux. L'enquête démontrera qu'il ne roulait qu'à 80. Contrairement à ce qu'on a pu dire, il n'avait pas bu. Son taux d'alcoolémie était négatif. La fureur de vivre sort sur les écrans américains le 27 octobre 1955 et en France 6 mois plus tard. La sortie du film consacre le mythe. Et sur la James Dean Mania, qui dure maintenant depuis plus d'un demi-siècle, l'écrivain journaliste Philippe Labro écrit « Tout le monde se l'est accaparé. Les PD, les beatniks, les intellectuels, les camionneurs, les vieilles dames, les fillettes de 14 ans, les enfants de la banlieue, les minés du 16e arrondissement, les cérébraux de New York et les adorateurs du soleil de Californie. Il appartenait à tout le monde, James Dean. Autant dire qu'il n'appartenait à personne. »
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.